Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé dans le cadre du Numérique ici, les 12 défis du numérique de 2025. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet brûlant, surtout d'actualité, puisqu'on l'a vu pas plus tard qu'hier, l'imprévu peut arriver avec ces fameuses coupures d'électricité en Espagne et au Portugal. On n'aurait jamais pu y penser auparavant qu'un pays comme l'Espagne et comme le Portugal puisse avoir comme ça une rupture d'électricité du jour au lendemain. Donc ça fait vraiment écho au sujet d'aujourd'hui, comment augmenter sa résilience face à la crise, puisque les crises peuvent être multiples et diverses. Donc ne manquez pas le conseil de nos experts. Alors justement, pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts qui vont nous partager leurs bonnes pratiques et leurs retours d'expérience. Alors je te laisse peut-être te présenter, Nicolas.
Ouais, bonjour à toutes et tous, bonjour Frédéric, Mickaël. Donc moi je suis Nicolas Chani, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle NS Pulse, où je conseille des entreprises, principalement des entreprises à impact, mais aussi de, pas mal de gens dans le secteur de la formation. Et ces 5 dernières années, j'ai été beaucoup dans le secteur de la formation et avant dans le secteur de la communication et des médias. Et puis j'interviens aussi dans une équipe, un collectif qui s'appelle Collectif Z, qui travaille sur les transformations des entreprises, le futur du travail, donc à l'heure de l'IA, mais aussi à l'heure des transitions écologiques, à l'heure de l'accueil de nouveaux collaborateurs, avec des moyennes d'âge parfois un peu plus basses, et il faut s'adapter au monde du travail. Voilà, donc on fait tout ça chez Collective Z.
Merci Nicolas. Alors, et toi Mickaël, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et Dimup?
Oui, merci déjà pour cet accueil. Je suis très heureux de participer à ce webinaire numérique Issimo. Merci Frédéric pour l'organisation. C'est toujours difficile de monter un webinaire. Ça paraît pas comme ça. On s'assoit confortablement, on écoute les participants, mais il y a beaucoup de préparation en amont. Donc c'est précieux et merci pour ton temps. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai monté Dimup. Dimup, ça veut dire Digital Internet Maturity Model et Up, parce que l'idée, c'est d'aider les entreprises à aller en avant avec le numérique de manière générale et l'IA plus spécifiquement ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on fait? On aide les entreprises à poser un diagnostic de maturité digitale et IA à 360 degrés. Donc, on le fait vraiment de manière très profonde, soit de manière sous la forme de prestations. Donc là, à ce moment-là, on vient directement sur site, on rencontre les équipes, le top management, management opérationnel, et on les aide à comprendre et à formaliser leur niveau de maturité digitale. Soit, si elles préfèrent, elles utilisent directement les outils que nous-mêmes nous utilisons, à savoir la plateforme dimup.com qui propose différentes méthodologies de diagnostic sur abonnement, donc un modèle SaaS bien connu. Et voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais il y a plus de 400 diagnostics qui ont déjà été réalisés sur la plateforme, donc on est très heureux.
Ouais, et c'est vrai que de faire le diagnostic, justement, ça permet d'améliorer sa résilience. Ok. Et donc moi, faire des canapettes, je suis blogueur et consultant sur conseil marketing depuis des années, ça fera bientôt 18 ans, 20 ans. Et en parallèle de ça, je suis également salarié chez un éditeur de solutions de centre de contact qui s'appelle Locan. Mais aujourd'hui, je vais parler plutôt à titre personnel, puisque j'ai écrit un bouquin justement sur adapter son activité face à la crise. Et là, je vous ferai un court extrait du pourquoi et du comment adapter son business face au contexte économique. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mickaël, ce webinaire s'inscrit dans les 12 défis du numérique Issimo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le numérique Issimo actuellement, tout simplement, c'est un annuaire des top décideurs et des acteurs en fait du digital en France. On essaye en fait de lister ceux qui ont fait Internet et qui font avancer le web dans l'année qui vient. Alors, on est sur l'édition 2024 que vous pouvez télécharger. Il y a une centaine de personnes et on va sortir d'ici à la fin de l'année, une nouvelle édition avec de nouveaux acteurs. Donc, on devrait normalement doubler. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez faire partie du numérique Issimo, vous pouvez candidater sur l'adresse qui est ici, bit.ly/numériqueissimo2024. Alors, avant de commencer, je voudrais vous poser une petite question. Donc, avec les dernières péripéties qu'on a vues, je le disais en introduction, l'Espagne, les coupures électriques, on peut le voir avec Donald Trump qui fait un petit peu de la pluie et le beau temps, en soufflant le chaud et le froid avec ses draps de douane, avec l'IA qui change notre manière de travailler, ça tu l'as bien dit Nicolas, avec un monde qui se trouve de plus en plus incertain, on parle de monde VUCA, on parle de business unusual, parfois on parle aussi de, bah, tiens, d'un changement de paradigme. À votre avis, pourquoi c'est important de travailler sur cette résilience ? Et est-ce qu'on est vraiment dans une nouvelle ère ? Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut commencer à répondre à cette première question introductive de pourquoi il faut revoir sa manière de travailler et se dire « Oh là, attention, il y a quelque chose qui se passe, il faut que je change quelque chose ou au moins je prenne du recul et que je prenne le temps d'y réfléchir. »
Allez, je me lance, Nicolas, si tu veux, comme ça, ça te laisse le temps de réfléchir. Je crois qu'en fait, on est en train de sortir d'une période... en particulier les Européens, les Occidentaux de manière générale, où le monde a été finalement gouverné depuis quelques décennies dans un format, un cadre social, un cadre d'affaires qui finalement est assez bien réglementé. On a eu évidemment à cœur de sortir des périodes de conflits qui nous ont quand même marqués pendant de nombreuses années. On a eu évidemment les deux guerres mondiales qui nous ont concernés au premier chef pendant ces conflits. Donc, on est finalement dans une période, nous en tout cas, moi je suis né en 71, donc ça fait plus de 50 ans maintenant que je vis dans un monde, quand j'ai vu le mur de Berlin tomber, je n'ai pas compris quoi. Au pire, hein, je caricature à peine quand je dis ça. Et finalement, on est en train, petit à petit, on est en train de voir émerger un monde où les choses sont très différentes. Les technologies nous aident à faire exploser des business partout dans le monde. C'est florissant en Afrique, c'est florissant en Asie. On n'est plus hégémonique comme on l'a été. Donc nous, en tout cas, Européens, on est obligés de changer. On n'a pas le choix. Voilà, pardon, j'étais peut-être un peu long, mais...
Non, mais t'as raison.
Tu voulais peut-être un truc court, mais... c'était juste par compassion pour Nicolas, pour lui laisser le temps de réfléchir, tu vois.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Et toi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est ce que tu as résumé. On était dans un monde qui était plutôt dominé par la moyenne de l'activité économique, avec 2, 3, 4, 5% chaque année, avec tout simplement des températures qui étaient plutôt moyennes tout le temps. Et on arrive dans un monde des écarts-types où ça peut baisser, augmenter, on a vu avec le Covid, mais a priori, une partie des problèmes liés à cette coupure électrique en Espagne et au Portugal, ça liait à un écart météo qui aurait été anormal et qui aurait fait péter les lignes. Donc, on voit bien qu'on arrive là-dessus sur quelque chose qui n'est plus business as usual. Alors, Nicolas, tu veux dire 2-3 mots avant qu'on passe justement à cette importance de faire un audit de sa maturité numérique et comment on en est exactement dans sa transformation digitale?
Moi, je dirais qu'il y a un sujet qui est de plus en plus compliqué, c'est les sujets d'accélération. Enfin, moi, j'ai l'impression, d'être dans un monde qui va de plus en plus vite. Et je crois que, c'était un peu tarte à la crème avant de dire ça. Je crois que depuis qu'on parle d'IA, c'est devenu encore pire en fait, parce qu'il y a eu besoin d'une sorte d'adaptation permanente. Et donc, je trouve que c'est pas si facile que ça, parce que les nouveautés vont très vite, et aussi la capacité d'assimiler des nouvelles choses. Enfin voilà, moi je suis assez, je trouve ça assez impressionnant et parfois un peu déroutant.
Inquiétant.
Et puis aussi, ça nous amène aussi à revoir des équilibres. Il y a eu déjà un webinaire numériquissimo sur l'IA, mais pourquoi pas faire travailler un peu l'IA, puis travailler un peu moins, et revoir notre rapport au temps, etc. Ça, c'est quelque chose qui est aussi jouable. Donc, une nouvelle ère sans doute, mais peut-être plus une sorte d'accélération de plus en plus rapide.
Donc, il faut se tenir prêt. Et donc, c'est ce que tu vas évoquer. Toi, Mickaël, tu vas parler justement de partie plutôt digitale. Et toi, Nicolas, tu vas apporter cette touche humaine et dire qu'on ne va pas que faire du numérique dans cette nouvelle ère. Et cette résilience, ce n'est pas que uniquement une affaire d'outils et de logiciels. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence de manière concrète. Alors, Mickaël, est-ce que tu peux nous dire justement comment on doit se lancer, comment on commence un petit peu à vérifier où on en est sur notre résilience ? Et en particulier sur le digital.
Oui, oui. Alors, j'aime bien commencer, moi, les interventions que je fais par cette question rituelle de poser juste, prenez juste quelques secondes, scannez le QR code que vous voyez là et Posez-vous la question de 0 à 5, où en est votre entreprise dans sa maturité digitale et IA ? Voilà, juste de manière objective, sans se dire « Ah, on a tout fait ». Non, peut-être. Simplement posez-vous quelques secondes. Alors, j'aime bien faire ça parce que, en général, ça permet aux participants des événements auxquels sur lesquels j'interviens d'avoir un peu d'introspection. On parle de résilience, mais la résilience, elle ne peut être accompagnée que par une prise de conscience de là où on en est. On ne pourra pas traverser une crise si on ne sait pas où on en est. Et donc, ça commence par comprendre où en est votre maturité digitale et IA. Et ce simple chiffre de 0 à 5, il est finalement un jugement que vous faites sur vous-même, sur votre entreprise, sur sa capacité à embarquer ces technologies qui nous aident à être plus productifs, qui nous aident à trouver de nouveaux clients, qui nous aident à recruter, qui nous aident à nous former. Nicolas va nous expliquer ça tout à l'heure. Donc, on va vraiment avoir une prise de conscience. Et vous verrez après que, en général, une fois qu'on a fait cette première prise de conscience, dès qu'on ouvre un tout petit peu plus la boîte, la réalité est un petit peu différente. Et donc, se préparer à subir ou à supporter des phases de crise, ça passe justement par être conscient de ses qualités et de ses défauts. Ça passe par ça. Et donc, cet auto-diagnostic, on ne peut pas vraiment placer un auto-diagnostic là, quand on parle d'une seule question, mais déjà, ça va vous aider à comprendre où vous en êtes. Je vais juste jeter un œil pour voir s'il y en a certains qui... voilà. Alors là, on a... Alors là, je dis bravo, ça m'intéresse. Je voudrais rencontrer cette personne qui vient de dire qu'elle est à 5 sur 5. Donc, moi, je n'ai jamais vu encore. Donc, dans toutes les conférences que je fais, je n'ai jamais vu quelqu'un me dire 5 sur 5, mais c'est bien. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est ultra en avance. Tout est hyper connecté. L'information est très, très fluide. L'IA, ce n'est même plus un sujet. C'est quelqu'un qui invente l'IA, probablement, qui crée des IA. Donc, je serais très heureux d'en discuter avec. Ah, j'ai un 4,5 aussi. Bravo. Un 4,5, c'est pas mal, ça. On est pareil. On est dans l'excellence à ces niveaux-là. Donc, ça veut dire que ce sont, dans les deux cas, des personnes qui méritent d'être suivies, d'être comprises. C'est des gens qui sont un peu en avance sur leur temps. Déjà, au-delà, à partir de 4 et au-delà, en fait, vous êtes très en avance par rapport à la moyenne des gens. Hein, juste pour que vous l'ayez en tête, sur DIMUP, moi je vous disais tout à l'heure en introduction, il y a plus de 400 diagnostics qui ont été déjà réalisés sur la plateforme. On est rarement au-delà de 2,5, pour vous dire. Quand on fait un diagnostic complet, je ne parle pas de la première prise de mesure, où en général, on est très au-dessus de ce qui est la réalité. J'ai fait récemment d'ailleurs un atelier inter-entreprise dans le cadre d'une conférence à Pau sur l'IA. Et les participants, l'écrasante majorité, hein, je parle de 80% des participants, se surévaluaient par rapport à la réalité, une fois qu'on va un peu plus dans le détail. Mais quand je dis se surévaluer, ça va jusqu'à parfois 2 voire 3 points d'écart par rapport à la réalité. Donc là, c'est considérable. On est sur un sujet de résilience. Comment vous faites pour être résilient si, en réalité, vous pensez que vous êtes à haut niveau et vous êtes en capacité d'absorber les chocs, alors que pas du tout.
Ouais, c'est vrai que l'IA va tellement vite, et même moi qui suis comme un expert, toi, je vais faire le petit test là, et j'ai du mal en fait à suivre l'actualité, et en plus je dirais pas que je suis un expert, parce qu'en fait l'expert c'est celui qui connaît plus que la moitié des autres, mais il y a des gens qui sont encore plus techniques que moi et qui savent faire du dev ou des choses comme ça. Moi j'utilise vraiment en surface, et même moi j'ai du mal, donc toi je mettrais un 4,5, mais et encore comme tu l'as dit, je pense que je me surestime par rapport à tout ce qui est possible de faire avec l'IA, quoi, ou le digital au sens large. Quoi.
C'est ça. Donc, bon, bref, voilà pour le petit exercice. En tout cas, je remercie à tous ceux d'avoir joué le jeu avec nous. Je vais passer à la suite parce que je voudrais éclairer 2-3 points dans le temps qui me reste. Déjà, le fait qu'on est dans une crise multifactorielle. C'est-à-dire encore une fois, hein, moi, je suis né dans un monde où, en 73, il y a eu la crise pétrolière. Et puis voilà, grosso modo, après, il y a eu le sida. Je fais court, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Là, aujourd'hui, on a le changement climatique, on a la guerre en Ukraine, on a une perte de sens qui nous envahit. On a les suites de la crise du Covid. Rappelez-vous, c'était il y a 5 ans. il y a 5 ans déjà, et on n'a toujours pas digéré les suites du Covid. On a tout ce qui est lié à l'instabilité politique. Et je ne parle pas que de la France. On a subi les atermoiements de notre président avec la dissolution. Maintenant, on ne sait plus trop où on va. C'est catastrophique. Mais dans d'autres pays dans le monde, c'est la même chose. On a un endettement public en France qui est devenu insoutenable. Ça, c'est pareil. Tous ceux qui ont plus de 50 ans ont vécu dans un monde des suites des Trente Glorieuses où finalement tout allait à peu près bien, même si le chômage a monté, etc. Mais là, en fait, tout ça s'ajoute, tous ces facteurs s'ajoutent. Et donc, en fait, dans ce monde-là, la particularité, c'est que on a une seule manière de résister, c'est d'innover. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite auprès des dirigeants de PME de moins de 250 salariés. Donc, le cœur de l'activité, hein, vraiment, on parle beaucoup du CAC 40, mais la réalité de l'emploi en France, c'est que c'est surtout les petites entreprises hein, qui font l'essentiel de l'emploi. Et bien, qu'est-ce qu'ils nous disent finalement, ces dirigeants? C'est qu'à 84%, c'est l'innovation qui va les aider à passer les crises. Intéressant quand même, hein. L'innovation aide à passer les crises. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'on pense à faire quand on est confronté à une crise. Puisque une crise égale danger, danger égale je me remets sur mes acquis. Et là, les patrons de PME, ils nous disent, non, en fait, c'est en étant innovant qu'on va s'en sortir. Il faut beaucoup de courage pour y arriver. Il faut de l'audace. Il faut parfois de la créativité. Il faut être malin parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour pouvoir financer les projets. Mais l'IA va nous aider, le digital de manière générale va nous aider à créer de manière différente. Donc ça, c'est un point qui est important. J'espère que ceux qui nous écoutent le partagent. En tout cas, s'il y a des...
Moi, je reconnais vraiment ça parce que moi, je l'ai bien vu quand on était dans ces phénomènes de crise. Moi, je voyais bien quand il y a eu la crise Covid. On a essayé de mettre en place un comité multiservices entre la R&D, le dev et tous les autres services en disant mais comment on peut faire pour s'en sortir au niveau du Covid. Et en fait, chacun a trouvé des idées. Et en fait, on a bien vu après auprès de nos clients qu'il y avait 2-3 postures de clients. Il y avait ceux, comme tu l'as dit, qui faisaient le gros dos et qui disaient « Oula, il y a la crise qui arrive, je me replie sur moi-même, je réduis mes coûts et j'essaye d'attendre que ça se passe. » Et tu avais les autres qui disaient « Non, ok, la crise, en fait, un petit peu comme dans le symbole chinois, crise et opportunité. » Ils se sont dit « Bah ok, c'est la crise, il va falloir qu'on se réinvente, il va falloir qu'on se refasse quelque chose. » Et ces clients-là nous ont dit « Bah tiens, on va mettre en place le télétravail, on va envoyer des communications proactives avec nos clients, etc. » Et c'est vrai que ça, et le troisième, c'est les gens qui font un peu, qui sont attentistes. Hein. Mais moi, je vois vraiment ces deux profils-là. Et typiquement, c'est les gens, souvent, comme tu l'as dit, qui se replient sur eux-mêmes et qui, en fait, réduisent tout, qui sont tétanisés, qui après, si la crise dure trop longtemps ou si elle est trop forte, après, paf, ils explosent parce qu'ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus rien, ils se retrouvent en cash flow négatif ou des choses comme ça. Quoi. Moi, je vois tout à fait ça. Hein.
C'est ça. Et je rebondis sur le terme cash flow négatif. Merci pour cette transition merveilleuse pour mon point suivant, parce qu'une fois qu'on est en crise, on pourrait se dire, ouais, ok, mais c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce qui se passe vraiment quand on innove dans une période de crise? Et il se trouve qu'on en a eu une récemment, hein, c'est en 2008, hein, pour ceux qui se souviennent, on a eu une crise financière mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise? Eh bien, cette étude est intéressante puisqu'elle nous montre que les entreprises qui étaient les plus innovantes pendant la crise, donc qui ont dit « Ok, nous, on va innover », exactement ce que tu décrivais, Frédéric, à l'instant, elles ont été 10% plus performantes que leurs pairs. 10% plus performantes pendant la crise. Donc, tout le monde s'écroule, hein, le monde entier s'écroule, tout le monde perd des marchés, etc. Mais eux, ils sont 10% au-dessus de leurs pairs. Et mieux, 4 ans après la crise, ils sont 30% au-dessus de leurs pairs. Donc, c'est-à-dire que l'innovation qui a été lancée pendant ces périodes-là, et ce n'est pas forcément évident, bien sûr, je ne dis pas que c'est facile, maintenant, l'innovation lancée pendant cette période-là, elle est extrêmement bénéfique dans les années qui suivent. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais comment on fait pour être innovant? Comment on fait pour, avec le numérique et l'IA, finalement absorber tout ça? Et donc là, je vous ai dit tout à l'heure, avec DeepUp, on va avoir une approche finalement de diagnostic. Et cette approche de diagnostic, vous pouvez la faire, comme je vous le disais, par vous-même. Vous allez créer votre compte sur DeepUp.com, vous vous laissez guider, vous allez aborder finalement un diagnostic à 360 degrés sur les 6 leviers que vous voyez à l'écran. Donc là, je n'ai pas pu faire d'animation, mais je vais vous les décrire les uns après les autres. Laissez-vous guider par ma voix. N'écoutez que ma voix, uniquement ma voix. Je me prends pour mesmer. J'essaye de vous emmener dans mon univers. Alors, la stratégie d'abord, c'est comprendre comment la stratégie digitale et IA va soutenir la stratégie de l'entreprise. On ne fait pas n'importe quoi avec le numérique et l'IA, même si, faut bien l'avouer, ces derniers temps, on a tendance à faire des jeux avec l'IA plus que vraiment créer... Enfin, on a tendance à se concentrer beaucoup sur les jeux créés que vraiment sur la valeur créée par l'IA, parce que Dieu sait pourtant qu'avec l'IA, on crée énormément de choses. Donc, comment l'IA et le digital va évidemment supporter la stratégie de l'entreprise? Le levier de l'organisation va vous inviter à vous questionner sur les structures que vous mettez en place pour que le digital et l'IA vous aident à animer l'ensemble de vos activités. Je répète, innovation, c'est la clé pour sortir des crises et de manière performante. Et on a bien en tête que si on veut être performant aujourd'hui et innover aujourd'hui, l'IA et le digital sont des atouts majeurs. Donc, ce que je suis en train de vous décrire là, c'est absolument fondamental pour votre entreprise. Troisième levier, le personnel, ce sont les hommes et les femmes de l'entreprise. Et là, c'est un sujet que Nicolas décrira beaucoup plus en profondeur, dans lequel on va essayer de comprendre comment les collaborateurs s'approprient le numérique pour être à l'aise avec ces outils, pour que justement le bénéfice, hein, le fameux ROI qu'on imagine en investissant dans des technologies, dans des nouvelles procédures, de nouvelles organisations, soit effectivement réalisé. Parce que, évidemment, tout ne se fera que par les humains. La technologie n'est qu'au service des humains. Et donc, si vous êtes à l'aise avec la technologie, c'est très bien. Si vous vous en servez pour être productif, pour être efficace, et libérer du temps d'échange avec vos collègues, avec vos clients, avec vos candidats quand vous les recrutez, alors là, c'est encore mieux. Quatrième levier, l'offre. Donc, c'est tout ce qui va vous permettre, si vous voulez, d'innover, d'apporter sur le marché, de vendre, évidemment, de marketer et de vendre vos produits et vos services. Et pour tout ça, si vous concevez des produits et des services qui sont IA ready, j'ai envie de dire, donc qui sont prêts à être utilisés des data, par exemple, et à produire de l'information, de la data qui sera utile derrière par d'autres produits et services, alors là, bravo. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et la personne qui, au début du webinaire, a s'est mis 5 sur 5, c'est probablement ce qu'elle fait déjà. Le cinquième levier, c'est la technologie et l'innovation. Donc là, on va s'intéresser aux infrastructures techniques, aux applications, aux devices que vous mettez à disposition de toutes les parties prenantes. Ce sont vos clients, ce sont vos collaborateurs, ce sont vos partenaires, etc. Bref, tous ceux avec qui vous interagissez, vous leur fournissez des services numériques qui vont mettre en œuvre évidemment des technologies IA, mais pas que. Et là, à ce moment-là, on va vraiment s'intéresser à ces sujets et on va les évaluer finement pour comprendre à quel point vous êtes prêt sur l'ensemble de ces aspects. Et enfin, le dernier levier, c'est un levier d'environnement. Donc, c'est tout ce qui est extérieur. Ce n'est pas l'environnement au sens le green, c'est l'environnement au sens environnement extérieur à l'entreprise. On pense notamment à tout ce qui est réglementaire, au juridique, au fiscal, à l'économique, bref, tout ce qui vient impacter l'entreprise, et là, Dieu sait qu'avec le sujet de la résilience, on va être servi sur cette partie-là. Et en particulier, si on focus sur l'IA, on sait par exemple que très récemment, il y a un IA Act qui vient d'arriver en Europe, mais vous voyez, il y en aura d'autres, et là, je ne parle que de l'Europe. Donc, si vous opérez dans un monde international, vous avez à vous préoccuper de l'ensemble des aspects extérieurs à votre entreprise qui vont avoir un impact sur votre capacité à être digital et à tirer profit de l'IA. Et donc, oui, pour conclure et te rendre la main, Frédéric, je répète encore, tout ce que vous voyez là, ce sont les 6 leviers de digitalisation que vous allez pouvoir évaluer sur la plateforme d'immeuble.com. Voilà, vous le faites, vous vous auto-évaluez. Si vous voulez qu'on vous aide, vous nous contactez à d'immeuble et on se fera un plaisir de vous aider.
Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler d'un exemple d'une entreprise qui était étonnée de son diagnostic, qui s'est dit hey, je pensais être bon, et ensuite surtout bien sûr quelles ont été les actions qui ont été mises en place pour se transformer. Alors justement pour éviter justement d'être en retard ou justement de ne pas travailler assez à un point de son organisation globale.
Alors, comme le cas a été publié sur LinkedIn, je peux en parler assez aisément. C'est la FEPEM, notamment, qui a fait appel à mes services pour faire un diagnostic digital. Ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui ont déjà été faites dans cette boîte. C'est une petite boîte, hein, ils sont 125 collaborateurs, moi j'y étais, plus des externes qui bossaient pour eux, mais 125, c'est pas très gros, mais c'est déjà une belle boîte. Et en fait, on s'aperçoit, ils ont pris conscience que malgré tout ce qui avait été lancé, ils avaient perdu le sens, ils avaient perdu la cohérence des actions à la fois de stratégie, c'est-à-dire vers où on veut aller. Je vais donner un exemple, hein. C'est un marché, ils sont dans le tout ce qui est comment on appelle ça, aide au domicile. Donc ils vont t'aider à gérer ta relation avec ta femme de ménage, la nounou pour tes enfants, ce genre de choses. Et donc cette fédération là, ils ont 5 millions de personnes en France qui achètent, qui souscrivent à ce genre de service à domicile, et ils n'ont que 60 000 adhérents. Il y a quand même un problème. Donc tu comprends bien qu'il y a une évidence d'utiliser le numérique pour aller chercher et être en relation avec ces 5 millions de personnes. Donc, le marché adressable, c'est 5 millions et on n'en a que 60 000. Donc, on a un gros effort à fournir. Mais en fait, sur la manière de structurer, sur les outils en place, sur la formation des collaborateurs, sur l'architecture, sur l'organisation, rien, enfin, c'est pas que rien n'allait, mais c'était compliqué pour eux d'y voir clair. Et avec un diagnostic, tout d'un coup, les choses prennent leur place. Tu vois, ça devient très clair. Et à ce moment-là, le corollaire de ça, et j'ai fait un post LinkedIn, je le partagerai peut-être si j'y pense à la sortie du webinaire, à la sortie de la présentation du diagnostic, des résultats. Donc moi, j'ai rencontré 18 personnes dans l'entreprise, le top management et le management opérationnel. Ils ont arrêté net de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Ils avaient prévu de faire un webinaire dans la suite et ils se sont lancés sur la préparation des actions prioritaires qui avait été montré comme étant absolument urgente à traiter. Donc ça, c'est transformateur, si tu veux, dans la façon de conduire l'entreprise.
Ouais, c'est vrai que d'avoir souvent cette vision externe, c'est assez important, parce qu'en fait, on essaye comme ça d'avoir un point de vue externe, autrement, on continue à faire ce fameux business à joujou. Ok. Ben, merci pour cette première partie, donc l'important de faire un diagnostic et vérifier ces fameux 6 éléments. Après, il y a la partie humaine, et ça, c'est important pour toi aussi, parce que, Nicolas, et c'est se dire, ok, on ne va pas transformer une entreprise, la rendre plus résistante, si on ne travaille pas sur les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur.
Exactement. En fait, ça, c'est. Donc, moi, ces 5 dernières années, j'ai dirigé un gros organisme de formation dans le numérique. Donc, on a accompagné beaucoup de gens dans la transformation de leur carrière, puis dans la transformation des entreprises dans lesquelles elles allaient. Et j'ai vécu moi-même des sujets internes qui étaient aussi des sujets à la fois de croissance et à des moments de décroissance. Du coup, je pense que l'augmentation de la résilience, qui est le thème générique de cet échange, c'est vraiment un sujet de compétence. Donc, à la fois arriver à appréhender les compétences qu'on a en interne, ça peut être soit les siennes, soit celles de son organisation, et puis aussi voir comment on améliore ses compétences ou comment on monte en compétences. Alors, on travaille sur ce sujet-là pas mal avec Collective Z, et on appelle ça d'emmener les entreprises d'aller vers des organisations régénératives. Donc, les organisations régénératives, c'est des organisations où on va favoriser la collaboration et travailler sur la robustesse. Et ce qui est amusant, quand on travaille sur les organisations régénératives, on va travailler d'abord sur la culture d'entreprise, d'abord sur repenser comment on fonctionne, voir comment on transforme durablement certaines pratiques. On travaille aussi sur les croyances fondamentales. Souvent, moi je rencontre ça quasiment tous les jours dans le secteur de la formation sur lequel j'interviens beaucoup en conseil, les croyances fondamentales. C'est-à-dire, tout le monde fait ça parce qu'on fait ça depuis très longtemps. Donc, voilà, on travaille sur ces sujets-là. Donc, là, 80% sur la culture d'entreprise. Et puis après, 20%, c'est les comportements de tout le monde, de chacun des collaborateurs de l'entreprise, mais aussi mais aussi des dirigeants. Et du coup, sur les comportements, on travaille à la fois sur des activités collaboratives pour favoriser la collaboration. On travaille aussi sur les soft skills. Je vais vous parler de ce qu'on fait un peu sur les soft skills. Et puis, on travaille aussi, je dirais deux mots en rigolant, mais sur l'usage conscient des technologies. Parce qu'on a parlé d'IA pas mal, mais des fois, il y a des fois où il ne faut pas utiliser l'IA, ça ne sert à rien. Du coup, on travaille aussi beaucoup sur ce sujet-là. Sur la relation entre les hard skills et les soft skills, on a, vous avez sûrement entendu parler beaucoup des soft skills, parce qu'on parle beaucoup de ça, c'est les tartes à la crème. Chez Collective Z, on pense que c'est très lié... que c'est très lié aux hard skills, qu'on peut pas avoir l'un sans l'autre. Et du coup, on a développé un référentiel. À l'intérieur des capacités. Donc en fait, on a créé 5 grandes compétences clés. C'est un référentiel qui existait déjà, mais on a ajouté une compétence et on l'a décliné en 15 capacités. Donc, quand on vient travailler dans les entreprises de manière très concrète avec ces sujets-là, on arrive avec ces 5 compétences, on arrive avec les 15 capacités et on fait travailler les équipes en collaboration sur ces sujets-là pour s'évaluer sur les sujets. Donc, en fait, on a un sujet qui est la pensée critique, donc qui se décline en des cartes autour de la curiosité, de la pensée analytique, du traitement de l'information. En fait, on invite vraiment chaque personne qui participe à ces ateliers à positionner c'est quoi ma meilleure capacité. Et puis après aussi, on essaie d'évaluer la capacité des autres personnes qui sont autour. Donc à l'issue de l'atelier, qu'est-ce que la personne qui est autour de moi a mis en œuvre comme capacité? Et ça, l'idée, c'est d'augmenter chaque personne sur ses différentes capacités. Autre compétence, les compétences autour de la collaboration. Donc, les compétences autour de la collaboration, c'est tout ce qui est esprit d'équipe, énergie positive, prise d'initiative. Ensuite,
ça revient tout à fait au fait que quand tu es dans une situation de crise ou de difficulté, tu ne peux plus avoir un manager qui décide tout en haut et les autres qui exécutent, mais il faut que tout le monde donne en fait son feedback et que ça soit en mode collaboratif parce que tu peux pas déjà tout décider. Et puis souvent, c'est ceux qui sont le plus en rapport avec les clients qui connaissent le plus de solutions ou qui connaissent les produits. Moi, je l'avais vu une fois quand je travaillais chez un éditeur de logiciels. On voulait sortir un petit produit de devis facturation parce qu'un concurrent l'avait fait. C'est vrai qu'on était parti au début sur un mode « Allez, on fait un lancement de produit, cahier des charges, machin, tout ça. » Et puis après, on s'est dit « Non, mais on n'y arrivera jamais. » Et finalement, on a laissé quasiment les clés du camion à la R&D en leur disant « Bon voilà, on vous laisse faire, travailler pendant 2 semaines, présentez-nous une maquette. » Et en fait, ils sont venus avec une maquette et finalement, le produit était prêt à 90%. On a fait 2-3 tests produits et puis bam, on l'a lancé. C'est comme tu l'as dit, esprit d'initiative, esprit d'équipe et laisser travailler en petit comité les gens. Et c'est là que tu libères les énergies, quoi.
Exactement, merci Frédéric. Autre chose qu'on a ajouté en termes de compétences, c'est quelque chose qu'on a appelé l'alignement corps-esprit. L'alignement corps-esprit, c'est assez, c'est quelque chose qu'on a vraiment ajouté tout autour de la maîtrise de soi et la persévérance. J'ai fait récemment un atelier avec des jeunes des écoles de la seconde chance. Il y en a plein qui avaient choisi la persévérance. Une compétence, c'est la communication. Dans la communication, il y a vraiment le sujet écoute active qui est hyper important. Un des sujets qu'on voit souvent dans les entreprises sur lesquelles on a oublié de travailler, c'est le fait de s'écouter. Donc ça, c'est un sujet qui est très, très clairement...
Ouais, surtout auprès des nouvelles générations, moi je le vois. Des nouvelles générations, tu ne peux pas leur dire « Hey, fais ça !» Et vas-y, rends-moi le truc, il faut que tu leur expliques pourquoi c'est intéressant. Et parfois même, ce qui est assez étonnant, c'est leur expliquer pourquoi ils peuvent se tromper aussi. Parce que je trouve que cette nouvelle génération a une très forte confiance et qu'ils disent avec 3 tutos, 3 machins, je vais me débrouiller. Et finalement, il faut dire non, mais je te montre, il faut faire ci, il faut faire ça. Et tu ne peux plus être en top-down, en décideur, il faut vraiment à récupérer l'adhésion, quoi.
Exactement. Et puis, dernière chose, c'est toute la, tout ce qui est créativité. Donc, le fait, donc dans la créativité, on a mis la flexibilité, mais il y a aussi voilà, l'imagination et l'ingéniosité. Et voilà, donc on travaille beaucoup dans les entreprises avec ces outils-là. Et c'est des... on a des cartes comme ça. Et en fait, derrière, il y a des niveaux. Donc, en fait, on peut s'évaluer sur les niveaux. Donc là, c'est vraiment enfin, un outil très pratique pour travailler sur, sur comment on s'évalue et comment on crée, comment ces compétences soft skills sont aussi en rapport avec le travail. Voilà, vous avez un petit résumé des différentes compétences et des 15 capacités. Et c'est vraiment très intéressant à la fois de s'auto-évaluer et aussi d'évaluer ses pairs quand on fait un travail collectif. Alors ça, c'est voilà, une partie de l'évaluation des compétences. C'était aussi pour dire que l'évaluation des compétences, en fait, c'est pas forcément que des compétences hard, mais c'est aussi des compétences dans des sujets de collaboration, dans des sujets de communication. Ensuite, autre sujet que je voulais aborder rapidement, c'est l'amélioration des compétences. Et dans l'amélioration des compétences, il y a ce qu'on appelle chez Collective Z l'usage conscient des technologies. L'usage conscient des technologies, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit utiliser une technologie, quand est-ce qu'on ne doit pas utiliser une technologie. Et du coup, cet exemple est criant. Vous avez beaucoup de gens... quand ils veulent faire une démonstration comme quoi l'IA ne fonctionne pas, ils prennent ChatGPT, intelligence artificielle générative, qui est là pour faire des textes et des images, ils mettent une multiplication bien complexe, et puis ChatGPT se trompe, ou tel nouvel outil d'IA se trompe. On a vu le cas récemment avec l'outil d'IA français Lucie, créé par l'Inagora, on lui fait faire une multiplication, il se trompe. Et ben, l'usage conscient des technologies, c'est ça. C'est de savoir comment ça marche une IA générative, et c'est de savoir que si vous avez besoin de faire une multiplication bien complexe, voilà, ce machin qui fonctionne à l'énergie solaire en plus, donc qui fonctionnerait encore en Espagne aujourd'hui, vous donnera le bon résultat. Et donc en fait, c'est vraiment cet exemple-là, c'est un exemple criant, mais travailler sur l'usage conscient des technologies, c'est-à-dire savoir un peu comment les technos fonctionnent. On ne demande pas à tout le monde d'être des spécialistes du big data, de l'IA, de savoir entraîner une IA, mais de savoir un certain nombre de mécanismes pour après pouvoir dire à un moment, quand j'ai un besoin technique, j'utilise le bon outil. C'est quelque chose qui nous paraît totalement essentiel, surtout maintenant avec le développement de pléthore d'outils qu'on peut utiliser. Et puis il y a un phénomène sur lequel on doit absolument travailler, qui est un phénomène dans les entreprises qui est lié à l'IA. À l'IA, c'est tout ce qui est shadow IA, donc en fait tout ce qui est les outils qui sont utilisés par les équipes sans qu'on le sache et sans qu'on le maîtrise. Il peut y avoir des cas où ça n'a strictement aucune importance, et puis après il peut y avoir des cas avec des problématiques soit de propriété intellectuelle, soit des problématiques de confidentialité. Et en fait, mais on reproduit ça depuis des années. Hein. Le Shadow IT, ça existait dans les années 2000, quand des DSI ne voulaient pas qu'Internet rentre dans les entreprises. Donc en fait, c'est un mécanisme qui se reproduit, mais c'est un mécanisme sur lequel on doit absolument travailler pour fournir les bons outils. Pour terminer, parce qu'on a parlé de compétences, les compétences, ça passe par la formation. La formation tout au long de la vie, alors on en parle depuis longtemps, mais aujourd'hui il y a des mécanismes qui deviennent assez réels. Donc en fait, j'ai vu d'ailleurs dans les premiers commentaires de ce webinaire avant qu'il démarre, il y a quelques jours, quelqu'un a dit la résilience, je commencerai par les compétences et me poser les questions sur mes compétences. Alors, on est tout à fait d'accord avec ça. Et donc les manières de faire évoluer les compétences, c'est d'utiliser tous les dispositifs qui sont à la disposition de tout un chacun la possibilité de se former régulièrement. Il y a le compte personnel de formation. En principe, il a été crédité au début de l'année si vous avez travaillé l'année dernière. Voilà, c'est des choses qu'il faut regarder. Il y a les aides de France Travail, ça c'est pour les demandeurs d'emploi. Salariés dans les grandes entreprises, il y a le plan de développement dans les compétences qui sont financés soit par l'entreprise, soit pour les petites entreprises par l'opérateur de compétences. Il y a pas mal de dispositifs qui existent aussi pour les micro-entrepreneurs, ça dépend de comment ils se rémunèrent. Il y a les dispositifs d'alternance, bien sûr, vous les connaissez. Il y a des dispositifs spécifiques pour les personnes en situation de handicap, des aides régionales également. Et puis, il y a ce qui s'appelait avant le CIF, Fonds GESIF, il y a longtemps, voilà, qui s'appelle aujourd'hui Transition Pro et qui est le CPF de transition, donc qui permet en faisant un dossier de se former. Et donc, voilà, ça, c'est des dispositifs qu'il ne faut pas hésiter à aller voir. Utiliser son CPF régulièrement pour faire une formation, ça peut être quelque chose de... ça peut être quelque chose de malin, notamment sur les sujets IA. Pour vous renseigner sur les dispositifs de financement, il y a un site qui est plutôt bien fait, c'est le site de Centre Info. Alors, il est très destiné aux professionnels de la formation, mais du coup, il y a plein d'informations qui sont très, très intéressantes et surtout, il est à jour parce que c'est des gens qui font beaucoup de veille. Donc, c'est Centre Info avec deux F parce qu'on est dans le monde de la formation. Donc, c'est un petit peu complexifié les choses. Et puis, quelque chose qui est important aussi, c'est que quand vous allez choisir une formation dans ces différents dispositifs, ce qui est important, c'est que ces formations, elles amènent à une reconnaissance. Donc, elles amènent soit une certification, soit un diplôme. Et du coup, vous pouvez utiliser deux sites. Il y a un site qui s'appelle France Compétences. Ça, c'est le gros site institutionnel qui référence tout. Mais l'avantage, c'est que vous savez si le diplôme auquel vous allez accéder, il est bien actif, il est bien reconnu, quels sont les blocs de compétences qu'il y a à l'intérieur. C'est en général très, très instructif. Et il y a des gens qui ont fait un site qui s'appelle MesCertifs, MesCertifs.fr, qui a un moteur de recherche qui va manger ce qu'il y a sur France Compétences, mais qui va aussi manger plein d'autres sources d'informations avec d'open data public, qui va agréger tout ça et qui vous permet justement de rentrer dans les compétences. Et en fait, l'idée de MesCertifs, c'est de dire que, en fait, avant de choisir une formation, il faut d'abord réfléchir à quelles compétences dont on a besoin, dans quel diplôme ça se trouve, et puis après d'aller vers la formation. En fait, ça renverse un peu l'idée de la formation.
Merci. Et puis moi, ce que j'ai bien apprécié justement, c'est là, c'est on parlait de résilience et de changer le paradigme. Là, tu nous as montré, je pense, avec je le remets à l'écran, des bons exemples en fait de ce que l'on peut revoir et remettre en cause. Là, par exemple, tu nous as montré une méthode en fait qui se base sur le serious game pour faire de la formation. Et ça, clairement, c'est se dire, mais OK, je remets en question ce que je peux faire parce que si je fais de la formation de manière traditionnelle, je vois que c'est compliqué. Moi, j'ai été prof pendant longues années en école de commerce et c'est vrai qu'entre ma manière de faire des cours quand moi j'étais étudiant où c'était le prof qui nous crachait son cours et hop, on en avait des kilos et tout ça, et maintenant la manière de faire des cours, on ne peut plus faire des cours de la même manière. Et si on n'est pas en train de se remettre en cause, en fait, on va forcément dans le mur. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est vrai que cette manière-là de revoir les choses est indispensable. Alors, justement, est-ce que tu aurais un exemple d'une entreprise avec qui tu as travaillé qui, grâce à ce diagnostic, s'est dit, mais je me suis posé les bonnes questions et je dois faire ci, je dois faire ça. Une petite anecdote, justement, pour montrer par un exemple cette fameuse importance de résiliation, de résilience.
Alors nous, on a, enfin, moi, je peux pas citer d'exemple public comme Michael, mais j'ai un exemple de groupe qu'on est en train d'accompagner, qui est un groupe industriel. Et en fait, on travaille avec eux sur des programmes de formation des managers. Donc, c'est une grosse organisation, donc ils ont tout un programme de formation avec des cycles annuels, et on a vraiment travaillé sur ces compétences. Donc, en fait, c'est très soft skills. C'est des gens qui sont dans l'industrie, ils ont l'habitude de faire des projets ultra complexes, et en fait, finalement, on les fait reculer d'un pas, travailler sur leurs soft skills. Et on a un autre exemple, c'est dans une entreprise publique. On a travaillé sur ce que je citais tout à l'heure, l'usage conscient des technologies. On a créé un jeu qui s'appelle Zoé versus Adam. Et en fait, le pitch du jeu, c'est... Donc en fait, Adam, c'est une IA qui a décidé qu'il avait analysé tout et finalement, la seule solution pour que l'humanité perdure, c'était que ce soit sans les hommes. Et en fait, le jeu se passe en 10 challenges. Et en fait, il faut dans ce jeu-là contrer l'IA Adam. Et en fait, c'est un jeu d'acculturation à l'IA. En fait, on peut utiliser plein d'outils d'IA. Chaque challenge peut utiliser plein d'outils d'IA. Et les réactions qu'on a, en général, c'est parce que les gens se prennent beaucoup au jeu, c'est « Ah, bah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec l'IA. Ah, je ne savais pas que tel outil utilisait telle chose. Je ne savais pas qu'on pouvait extraire telle chose. » Qu'en fait, on fait pratiquer. Et en fait, les 10 challenges sont 10 prétextes d'aller pratiquer des IA sur les sujets. Donc, on est dans la mise en pratique et dans la culturation. Et c'est un jeu qui fonctionne plutôt bien. Même on a fait ça avec des jeunes aussi, ça marche.
Ouais, mais ça, je te rejoins tout à fait, parce que on a nos clients qui s'appellent Geodis, qui lui aussi a fait un gros changement de culture d'entreprise. Ils sont passés d'une culture, entre guillemets, SAV à une culture orientée client. Et ce changement s'est fait en faisant venir les personnes pendant 2 jours sur l'expliquer les enjeux de la relation client, pourquoi il faut travailler sur l'expérience client, la différenciation, sur le niveau premium, etc. Et dans le dispositif, il y a eu aussi un serious game qui était là, en fait, pour les entraîner à répondre au téléphone correctement, à faire du rephrasé, etc., etc. Et cet aspect serious game permet en fait de casser la formation un petit peu traditionnelle, un peu classique et de plus prendre pour soi ces informations-là. Merci pour cette partie. Donc, on a vu une première partie sur l'importance de son diagnostic digital parce que tout simplement, la transition numérique a touché toutes les entreprises. On ne peut pas se faire comme à l'ancienne. Ensuite, toi, Nicolas, tu nous as dit, il faut aussi penser aux hommes et aux hard skills. Et c'est vrai que moi, je le dis tout le temps, lorsqu'on va en fait avoir une machine qui va répondre à 10, 20, peut-être un jour 30% des demandes, les 70% qui vont rester, il va falloir être excellemment bon et on va changer un peu le métier. Moi, je sais que chez nous, dans le domaine de la relation client du centre de contact, il va y avoir des gros impacts. C'est-à-dire que les gens qui étaient habitués à traiter des demandes simples vont maintenant traiter des demandes difficiles. Ça va être plus compliqué, des relations conflictuelles, parce qu'on aura passé une minute, deux, trois minutes avec un bot, etc. Donc, il faut vraiment se former et pour apprendre à gérer ces évolutions. Alors, de mon côté, moi, je vais remonter peut-être d'un petit niveau et parler de choses qui ne sont pas forcément très agréables, parce qu'en fait, pour moi, de mon point de vue, on arrive vraiment à une nouvelle ère. Une nouvelle ère, pourquoi ? Parce que l'IA, certes, c'est quelque chose qui révolutionne notre quotidien, ça change notre manière de faire, la transformation numérique digitale, on l'a vu à l'époque du Covid, c'était aussi un changement, mais parfois j'ai l'impression que ça masque un petit peu les vraies tendances de fond. C'est l'arbre qui cache un peu la forêt, puisqu'en fait, on voit que même à court terme, on pense vraiment au digital. Moi, je pense tous les jours, j'utilise tous les jours. Et pourtant, il y a des choses qui sont plus loin, qui sont un petit peu pour l'instant dans l'ombre, mais qui se rapprochent de plus en plus. On a parlé du réchauffement climatique, l'impact sur le réseau électrique. On voit aussi la fin de l'énergie abondante, puisque on commence à voir un petit peu les informations comme le pic du pétrole ou les demandes de pétrole qui deviennent de plus importantes dans n'importe quel pays. Donc, on va arriver dans une période où on aura en fait une énergie pas chère, abondante, qui va se restreindre et qui va se diminuer petit à petit. La biodiversité et la pollution également sont des choses que, pour l'instant, on voit assez peu dans notre quotidien, mais qui vont commencer à impacter de plus en plus notre environnement économique au sens large. Et ça va typiquement toucher toutes les entreprises. Et le rôle d'un manager, pour moi, c'est justement d'anticiper cela. Alors, même si on n'y croit pas, même si vous me dites, finalement, l'énergie abondante, on trouvera une solution, etc., pourquoi pas, peut-être, mais en tout cas, le métier d'un manager, le métier d'un dirigeant, c'est d'anticiper cela. Et s'il ne l'a pas encore fait, c'est lui qui sera mis comme responsable. Et les collaborateurs, les actionnaires, etc., seront les premiers à vous sanctionner. Donc, il faut vraiment, de manière importante, travailler sur ce point-là, sur la résilience. Pour moi, la résilience passe, en fait, grosso modo, sur 4 étapes. 4 étapes au niveau de l'entreprise, de manière globale. Donc, je ne vais pas rester au niveau du marketing, mais je vais vraiment parler de la résilience de manière globale. La première, tout simplement, on voit bien qu'une entreprise qui va être plus résiliente va être une entreprise qui va être agile. Agile, c'est qu'elle va être plus... tout simplement plus facile, elle va sauter plus facilement les obstacles, elle va essayer de tenter cette fameuse antifragilité dont on va parler tout à l'heure. Donc, pour être plus agile, il faut être plus léger. Tout simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler plus sur ses frais de structure. Tu parlais tout à l'heure d'organismes de formation, Nicolas. Moi, je connaissais pas mal d'organismes de formation qui avaient toute une série de salariés qui étaient là pour organiser les formations. Et quand il y a eu la crise de Covid, quand il y a eu des ralentissements économiques, comment on fait ? On a une masse salariale qui est d'un certain niveau, avec un seuil de chiffre d'affaires qu'on doit sortir obligatoirement. Et si on a un ralentissement, on se retrouve coincé. Pareil, j'avais un de nos partenaires qui était consultante dans la relation client. Elle avait 3-4 salariés et elle me disait, mais je passe mon temps à chercher du business pour faire fonctionner l'entreprise, mais finalement, je cours, mais je ne travaille pas pour moi. Donc, elle a décidé de changer son activité. Maintenant, elle a toujours un salarié, mais elle a 3 consultants freelance et d'autres réseaux qui arrivent, d'autres personnes dans son réseau qui travaillent, ce qui permet d'alléger sa structure. Et tout d'un coup, elle a dit, mais finalement, s'il y a une baisse, s'il y a une hausse, maintenant, je mets en place des partenariats. Certes, je perds en qualité, il faut que je surveille plus, etc. Et il faut que je sois plus présente parce que en sous-traitant, finalement, la personne qui est en face de l'entreprise, c'est le consultant, ce n'est pas forcément l'entreprise. Donc, elle dit qu'elle s'oblige en fait à aller en rendez-vous plus souvent et faire parler de sa marque et pas uniquement du consultant. Donc, frugalité à tous les niveaux, ça c'est vraiment important. Deuxième chose, et je détaillerai juste après, c'est la partie repenser ses produits. Repenser ses produits maintenant et être en phase dans le futur. Pourquoi en fait être en phase? On l'a vu lors du Covid et on le verra dans les années à venir. C'est OK, j'ai l'habitude de proposer un produit, mais comment je peux être sûr que mon produit va être en phase avec les préoccupations majeures de l'entreprise? Là, on le voit clairement, c'est l'IA. En fait, on ne peut pas proposer un produit sans dire « Ouais, il y a une petite fonction d'IA. Pourquoi ?» Parce que les directions générales sont en train d'y penser, parce qu'au quotidien, on l'utilise aussi. Donc, même si l'IA ne fait pas partie du projet majeur, il faut quand même le prouver parce que les entreprises auront une oreille attentive. Là, je discutais avec un éditeur logiciel qui travaillait dans le domaine du bâtiment et il me disait, j'ai un peu de difficulté. Tu sais, le bâtiment, ça marche un petit peu moins bien maintenant. On arrive moins à avoir de demandes. J'ai dit « Mais… c'est quelque chose qui est normal parce que un artisan du bâtiment, il va se concentrer sur son activité, il va se dire non, le logiciel, je pourrais le changer dans 1 an, 2 ans. Par contre, si tu arrives avec quelque chose de nouveau en disant hey, j'ai un logiciel qui permet de faire de l'IA et qui permet de faire gagner du temps pour, par exemple, l'orthographe, parce qu'on sait très bien que beaucoup d'artisans du bâtiment ont des difficultés en orthographe, on arrive à avoir une oreille attentive où on dit, tiens, tu vas pouvoir faire telle chose, par exemple, des calculs, pouvoir rédiger un devis avec le téléphone et le enregistrer dans ton logiciel, etc., etc., avec une mise en forme. Tout ça, en fait, c'est des choses qui vont à la fois toucher à leur quotidien, mais comme c'est quelque chose qui est dans leurs préoccupations et qui est dans leurs objectifs, hop, ça va fonctionner, ça va matcher. Troisième chose, c'est prospecter et fidéliser de manière différente. Lorsqu'on est en fait dans un contexte qui est plus difficile, qui là actuellement, on voit qu'on est quand même sur un système qui est en plus en ralentissement, il ne faut plus faire les choses comme on le faisait auparavant. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une entreprise qui travaillait en fait dans le domaine de tout ce qui est retraite. Et c'est vrai qu'il nous disait, on faisait de manière traditionnelle il y a quelques années, on faisait le courrier qu'on envoyait aux dirigeants, ensuite on est passé à l'email, maintenant on travaille sur les réseaux sociaux, mais ça coûte assez cher, comment je peux intégrer un peu d'IA, comment je peux intégrer un peu d'agilité, et là à ce moment-là on va passer au degrowth hacking, et je vous dirai ça juste après. Le quatrième point pour moi, c'est tout simplement essayer de travailler sur l'organisation. L'organisation, et tu l'as dit Nicolas de manière très juste, on ne doit plus travailler en mode top-down, en mode pyramidal, mais on doit travailler plus en réseau. Et clairement, c'est par exemple dire à certaines personnes d'entreprise, tu vas travailler sur tel projet en collaboration avec d'autres, etc. etc. Et c'est ça en fait qu'on va pouvoir mettre en place et qui va donner de la résilience à l'entreprise. Donc voilà, je vous ai mis ici une petite illustration que je trouve assez intéressante. C'est par exemple le classique actuellement, on travaille dans l'agriculture, on est dans l'agriculture intensive avec un maximum de rendement, mais dès qu'il y a la sécheresse, dès qu'il y a des aléas climatiques, en fait ça fonctionne moins bien. Donc parfois il faut travailler plus sur la robustesse. On parle souvent du tout électrique pour les voitures, certes c'est intéressant, mais parfois en fait c'est plus intéressant d'avoir une voiture à essence, vieille technologie, mais qui est beaucoup plus robuste. Pareil, je vous ai mis les volets roulants, c'est vrai que c'est intéressant, c'est sympa, mais parfois il faut avoir des choses un petit peu plus low cost. Donc ça c'est les 4 points. Dans ces 4 points, je vais faire le premier en fait, c'est l'antifragilité. L'antifragilité, c'est être capable de résister à des chocs et surtout s'en sortir mieux. La fragilité, c'est dès qu'il y a un choc important, tu as parlé des organismes de formation, s'il y a un changement au niveau du CPF, des choses comme ça, ça devient compliqué pour eux. Donc, l'organisation, elle n'a pas de trésorerie, elle est trop juste, ça casse. L'organisme robuste, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, on résiste qu'à un certain moment, mais à un moment donné, quand le choc est trop fort, ça casse. L'antifragilité, c'est j'essaye d'apprendre de mes erreurs, je m'adapte et j'évolue. Donc, ça se fait de manière très simple dans les entreprises. Dans toutes les entreprises, dans toutes les entreprises, il y a 5 à 10% qui sont, entre guillemets, inutiles. Qu'est-ce que ça veut dire, inutiles? C'est-à-dire que leur dépense n'a pas un impact sur la valeur perçue par le client. Et moi, j'ai vu quand je travaillais dans une startup dans les années 2000, on s'est fait un startup et un start-down, et en fait, on a réussi quand même à réduire 20-30% des charges de l'entreprise et offrir une qualité similaire. Alors certes, nous, c'était plus compliqué, c'était plus contraint, on était moins réactifs, on livrait plus aussi rapidement qu'on le faisait, mais on a quand même réussi à, entre guillemets, au point de vue du client, c'était la même chose. Ensuite, c'est réduire la fragilité, j'en ai parlé tout à l'heure, réduire les charges fixes, essayer de diversifier son nombre de clients. revoir sa manière de travailler. C'est vrai qu'il y a une méthode qui est assez simple, c'est la méthode des OKR, qui permet de définir dès l'entreprise quels sont les objectifs maximaux et les déléguer, les transférer aux différents leviers de l'entreprise. Ça, ça permet de donner un peu plus d'agilité et surtout d'être sûr que tout le monde est aligné et pas que le marketing travaille dans son côté à générer des leads, les commerciaux à les transformer, sauf qu'en fait, les leads générés par le marketing et les commerciaux, disent non, mais ce n'est pas du lead de bonne qualité, etc. Mais vraiment travailler ensemble, main dans la main. Déléguer, externaliser, on a vu ensemble, mais aussi, pourquoi pas, on l'a vu tout à l'heure avec un des auditeurs, John, travailler aussi sur la sous-traitance en offshore, parce que moi, j'ai une assistante depuis 5 ans, Sabrina, et c'est clair que c'est le meilleur investissement que j'ai fait, puisque Sabrina, elle permet de travailler pour moi. Par exemple, pour ce webinaire qu'on est en train de faire ensemble, j'ai invité pas mal de gens sur LinkedIn avec le petit système d'invitation. J'ai invité peut-être 200, 300 personnes à faire vœu à ce webinaire. J'allais quand même pas le faire à la main moi-même parce que j'avais aucun intérêt, j'étais débordé. Je l'ai sous-traité à mon assistante Sabrina et c'est elle qui a invité toutes ces personnes-là que j'avais listées. Donc c'est moi qui ai fait le travail d'intelligence de sélection et c'est elle qui a fait le travail manuel. L'autre point qui est important, c'est travailler avec les bons outils. Alors je vous laisserai peut-être mettre dans le chat ici, quels sont les logiciels qui peuvent être une alternative aux logiciels payants. Par exemple, on le voit bien avec Canva, Photoshop, c'est peut-être pas le même besoin, c'est peut-être pas la même chose, mais on voit bien que Canva et Photoshop sont en train de lutter au niveau des outils. On peut dire ChatGPT, on peut parler aussi d'outils comme Grok, DeepSeek, etc. Donc on peut voir qu'il y a des outils comme ça qui peuvent être beaucoup moins chers et qui peuvent faire le même résultat. Moi, par exemple, pendant très longtemps, j'étais sur Zapier, qui est un outil qui permet de faire de l'automatisation. Là, maintenant, je suis sur Make.com et en même temps, en fait, j'utilise également des outils un peu plus évolués qui permettent de faire des choses intéressantes comme N8N. Je pense également qu'il faut avoir une réflexion sur le low cost. Attention à la suroptimisation. Plus on est suroptimisé, plus on travaille en flux tendu, plus en fait on va avoir des difficultés en cas de problème. C'est l'inverse en fait de la résilience. Le flux tendu, l'optimisation, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et dès qu'il y a une anicroche, dès qu'il y a un grain de sable, et c'est ce qui va arriver de plus en plus, on va avoir des difficultés. Et je mets toujours en parallèle ces deux éléments-là. Par exemple, dans le domaine de la relation client, nous, on propose des callbots à nos clients. Donc, les bots, c'est des robots. On appelle au téléphone. Le robot, il transforme la voix en texte. Le texte est envoyé dans une solution d'intelligence artificielle qui est envoyée dans la solution voix de texte en voix et qui parle au client. Donc, on arrive sur une techno qui est super puissante, super jolie. On a l'impression de discuter avec les gens, sauf que c'est un coût qui est important. Grosso modo, ça coûte 10 fois plus cher de mettre en place un callbot. Et ensuite, la mise en place, c'est à peu près, 10 fois, mais 5 fois plus long. Donc, un SVI visuel où tout simplement, là, on va avoir une personne qui est au téléphone. On lui dit, si vous voulez traiter cette demande, je vous envoie SMS et pourrez faire votre démarche directement depuis votre téléphone. Là, en fait, généralement, on arrive à des taux de satisfaction de 90-95% avec quasiment la moitié des demandes qui sont traitées comme ça, avec un coût qui est bien moindre. Donc voilà, ne pas penser techno pour la techno, mais essayer de travailler parfois sur du low cost. Donc, le low tech, c'est ça. C'est travailler sur la sobriété, l'efficience, la pérennité, la maintenabilité, l'accessibilité, l'automatisation, le pouvoir en fait s'approprier les technologies, l'efficacité et la simplification. De plus en plus, il faudra travailler plutôt sur du low cost. Et ce webinaire est un exemple, puisqu'en fait, on a utilisé une solution qui s'appelle Restream, qui coûte à peine une quinzaine d'euros par mois. On fait comme ça une diffusion live sur LinkedIn, on récupère le replay derrière. C'est une solution qui, ce webinaire à lui tout seul, il coûte à peine quelques dizaines d'euros. Et pourtant, ça fonctionne. Donc, adapter son business, c'est aussi adapter son business et ses produits ou le repenser. Là, par exemple, j'aime bien cet exemple-là, c'est l'exemple de Darty. Darty, je trouve, fait des efforts beaucoup sur tout ce qui est réparation, RSCE. Ils ont mis en place un business récurrent avec le service garanti Darty. Ils travaillent sur le dépannage, sur le conseil. Ils font vraiment beaucoup de choses. Ils travaillent même sur des réseaux de franchise. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, ils travaillent vraiment sur la résilience. Mais attention, parfois, il faut aussi oser casser son business model parce qu'ils sont toujours sur la vente de matériel neuf basé sur la consommation régulière. Sauf que si un jour, il y a en fait un ralentissement économique, qu'il y a moins d'achats, qu'est-ce qui se passe ? Donc, en fait, cette entreprise-là fait des bonnes démarches, mais attention, il faut vraiment essayer de repenser totalement son business model. Et à chaque fois, je donne en exemple celui des garagistes. Les garagistes, en fait, surtout de scooters, parce que j'en ai un juste à côté de chez moi. Et en fait, je discutais avec une personne qui a un garage, justement, et qui me disait que pour eux, c'est la crise. Pourquoi c'est la crise? Parce que ils avaient auparavant du scooter thermique classique, où il fallait faire des révisions, changer les filtres, etc., etc. Et ils sont passés maintenant à une clientèle qui a de plus en plus des scooters électriques sur Paris, sauf que là, il n'y a quasiment plus de maintenance. Et résultat, le business récurrent de la maintenance est en train de tomber, et il y a de nombreux garages de réparation de scooters qui sont en difficulté actuellement parce qu'ils n'ont pas vu ce changement de modèle arriver. Voilà, donc c'est vraiment important d'anticiper les choses. Après, c'est également se dire comment je vais faire pour fidéliser mes clients et faire en sorte que ces clients-là vont m'être fidèles et quand ils vont faire le choix de choisir quelle dépense garder ou ne pas garder, qu'ils disent « non, mais je vais garder cette entreprise-là parce qu'elle est meilleure ». Moi, j'explique toujours qu'il faut travailler sur cet effet « waouh ». C'est comment je vais faire pour que la personne se dise « ah, waouh, ce produit est incroyable et je vais en parler autour de moi ». Donc, je vous ai mis ici une petite méthode qui reprend le livre « Ces moments qui comptent », qui est assez intéressante et moi, je l'ai mis dans mon entreprise. À titre perso, par exemple, pendant très longtemps, quand j'envoyais mon bouquin « Le gros hacking », j'envoyais mon bouquin avec une enveloppe en papier craft, et donc, hop, c'était parti, je l'envoyais par la poste, etc. Je me suis dit, mais Fred, comment tu peux créer un effet wow chez le client et qu'il se dise, waouh, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner un avis. Donc, j'ai déjà travaillé sur les moments clés qui étaient la réception. Donc, j'ai mis une enveloppe dorée, vraiment super jolie. Et souvent, les gens me disaient, ouais, il y a le facteur qui dit, waouh, c'est super intéressant. À l'intérieur, donc, j'ai mis bien sûr la dédicace. J'ai fait une petite carte dédicacée, si possible, avec un conseil personnalisé. Et là, je le dis toujours, mais cette année, je vais mettre en place dans le livre une petite surprise. C'est-à-dire qu'il y aura une petite feuille qui sera glissée à l'intérieur du livre et avec un bonus où les gens pourront accéder à ce document. Voilà, c'est important comme ça de faire cet aspect surprise. L'autre point, et je le disais juste précédemment, c'est comment je peux faire pour faire du low cost. Là, j'ai donné un exemple où en fait, avec un ancien collègue qui a monté sa boîte de consulting, on a mis en place un webinaire ensemble pour 30 balles. Pour 30 euros, on a fait venir 200 personnes à un webinaire, même plus de 200 personnes, je crois, 205 personnes, tout simplement parce qu'on a travaillé sur ses contacts avec des outils de growth hacking. Là, on a parlé de LinkedIn Helper, on a travaillé sur des partenariats, on a travaillé sur des outils low cost. Là, on avait utilisé Zoom à cette époque-là, on a utilisé Google Forms pour les formulaires et Canva pour les visuels, ce qui veut dire qu'on a juste apporté notre propre valeur ajoutée et pour 30 balles, on a réussi à générer des prospects. Voilà, donc c'est revoir sa manière de prospecter. Alors, on arrive quasiment à la fin du webinaire. Moi, un petit peu comme Mickaël, moi, je vous invite surtout à faire un audit de votre résilience. Anticiper, c'est prévoir. Et moi aussi, je pense qu'il y a 5 axes importants à travailler. Culture des chiffres, marketing, les équipes, le business model et le secteur d'activité. Et il y a 2-3 questions qui sont importantes à se poser. Par exemple, si vous perdiez 30% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Voilà. Si vos charges augmenteraient de 10 à 20%, qu'est-ce qui se passerait? Voilà. Quel est le seuil de rentabilité de votre entreprise? Quels sont le niveau de chiffre d'affaires que vous devez faire minimum? Ou quelles sont les charges minimum que vous devez payer tous les mois pour être sec? Voilà. Donc, c'est des questions simples à se poser, mais qui permettent de dire, OK, j'ai un début de réflexion et c'est là, en fait, que je dois agir. Alors, vous pouvez y accéder directement sur bit.ly/audit-résilience. Voilà. Alors, je vous propose d'arriver à la conclusion. S'il n'y avait qu'un seul conseil à retenir, quel serait-il? Alors, Nicolas, je crois que tu l'as écrit, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai écrit, ça. Mais, alors, si le conseil, c'était dès maintenant, c'est d'aller manger, parce que c'est important de manger. Mais... en fait, je pense que le sujet des compétences dont je vais parler tout à l'heure et des compétences qui ne sont pas forcément des compétences hard skills, mais plutôt des compétences soft et qu'on oublie souvent, je pense que c'est extrêmement important. Et je regarderai aussi les miennes, mais aussi celles que j'ai autour de moi. Moi, souvent, quand je vois des organisations où les choses ne vont pas, souvent, c'est un sujet de gens qui ne sont pas placés au bon endroit ou à qui on essaie de faire quelque chose... que finalement, la personne ne peut pas, ne sait pas, n'a pas envie de faire. Et finalement, des fois, il y a des gens qui sont très compétents pour faire autre chose. Donc, en fait, voilà, essayer d'aller au-delà de la façon dont on est organisé aujourd'hui et essayer de révéler, de révéler les gens. J'ai beaucoup vu ça dans le passé, dans les sujets agences, où les gens étaient beaucoup catalogués dans des façons de faire ou dans des cases. Et quand on est dans des sujets de décroissance, ça arrive de temps en temps, tu parlais de la décroissance tout à l'heure, bah, il faut aussi se poser la question de où sont les gens pour être efficaces. Voilà. Donc, et du coup, dans ce cas-là, bah, les soft skills, c'est le plus important. Que le reste, ouais,
c'est vrai. Mais de plus en plus, nous on le voit dans le domaine des centres de contact, il y a de plus en plus en fait de recrutements qui sont faits sur les soft skills et pas sur les hard skills, parce que c'est ce que nous disait Océane Hébert d'Altitude Infra dans son intervention. Elle préfère recruter des gens qui ont une bonne orientation client, qui sont là pour aider les clients, que des gens qui sont des experts en informatique et qui ont du mal et qui vont s'énerver avec des clients au téléphone parce qu'ils ne connaîtront pas les basiques ou qu'ils ont du jargon. Voilà. Et pour toi, Mickaël?
En deux mots, puisque je l'ai écrit, mais faites votre diagnostic digital parce que, et IA bien sûr, parce que vous l'avez compris, être résilient, ça passera par l'innovation, ça passera par le numérique et l'IA. Tout ce qui a été évoqué là, notamment la capacité à trouver de nouveaux produits et services, la capacité à former les collaborateurs, à les embarquer dans une organisation agile, à être, tu disais tout à l'heure, frugal, tout ça, on l'évoque dans un diagnostic digital et IA. Tous ces points sont évoqués avec un niveau de granularité qui est appréciable au niveau du top management. Donc, ça veut dire que si vous voulez sensibiliser vos dirigeants, si vous êtes sous la coupe de, je sais pas, d'un directeur quelconque dans l'entreprise, aidez-le à avoir cette vision à 360 degrés en se posant. Le monde va trop vite. On est dans un mouvement brownien permanent. Si on veut prendre les bonnes décisions, ça passe par prendre un peu de temps de recul, se poser, faire cette analyse à 360 degrés et à ce moment-là, prendre les décisions d'innovation qui vont avec, qui peuvent être des innovations managériales, des innovations sur les produits, sur les process, etc. etc.
Ok. Alors moi, je dirais tout simplement adapter des growth hacking. Des growth hacking, c'est utiliser des méthodes innovantes pour prospecter et se remettre en cause et chercher en fait de l'agilité au maximum. Alors, ben, merci à tous les deux. Tous les deux, oui. Ce que je vous propose, c'est que vous nous disiez quelques mots si vous voulez aller plus loin. Donc, bon, alors moi, je dirais tout simplement, lancez-vous. J'ai écrit un bouquin sur adapter son business dans un mode de consommation. Là, c'est pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Essayez de prendre conscience que le monde de hier est passé et que maintenant, on arrive dans un nouveau paradigme. Donc, il faut apprendre à adapter son business. Alors, je te laisse parler 2-3 secondes, Nicolas, de N-Pulse.
Bah, moi, n'hésitez pas, il y a un petit QR code, on peut se parler si vous avez besoin. Allez faire un tour sur collectivez.fr. Il y a pas mal de choses autour de la transformation et des entreprises et de ce qu'on fait. Et puis, si vous avez besoin, on se parle. Voilà, on accompagne régulièrement des gens dans leur transformation.
Okay, et toi, Mickaël?
Bah, j'ai mis mon lien directement LinkedIn, donc vous avez... contactez-moi si vous avez besoin. Si vous voulez être tout seul, vous préférez être résilient à votre manière en faisant votre auto-diagnostic, allez sur debug.com, laissez-vous guider. Ce sera facile à faire et surtout, vous prendrez conscience de la réalité de la situation.
Ok, merci à tous les deux. Donc, si vous voulez en savoir plus, on a nos prochains webinaires qui vont arriver. Donc, le 13 mai, comment lutter contre la saturation des audiences en marketing. Donc, Émilie Marcois, Stéphane Truffen et Yann Govenek. Le 20 mai, qu'est-ce qu'une bonne relation client à l'ère de l'IA que je vais animer avec Efici et le cabinet 37.5. Le 27 mai, comment tirer le meilleur du duo Humain IA avec Marien Mercanti et Guy Mamoumani. On verra également le no-code, quel impact est l'IA, quel impact sur le métier de développeur avec Elumet Oubaldé et Hervé Cabla. Et le 1er juillet, un sujet aussi clé dans le domaine de l'high-tech, Women in Tech, comment attirer les talents féminins. Et bien entendu, si vous voulez rejoindre le Numériquissimo, l'annuaire des top acteurs du numérique en France, il suffit d'aller sur le site numériquissimo.fr et vous pouvez également candidater avec le petit bouton qui s'appelle « Rejoindre l'annuaire ». Voilà, donc je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir, à bientôt. Merci.